Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par David Milia.
Les mafias sont au sommaire de notre magazine cette semaine. Benoît XVI s'inquiète de la recrudescence du crime organisé. Il faut dire que depuis 2001, la lutte contre le terrorisme a éclipsé le phénomène. La mafia a de beaux jours devant elle, en Europe notamment. Éclairage dans quelques instants. Dans ce Mondoscopie, nous partirons également en Palestine, à la rencontre d'un peuple qui ne vit plus mais qui survit. Un journaliste français revient d'un périple de 2 mois dans les territoires palestiniens. Récit de voyage. La mafia inquiète Benoît XVI. Le pape condamne une nouvelle fois les pratiques de l'organisation, un crime organisé qui prolifère depuis les attentats du 11 septembre 2001. La lutte contre le terrorisme a en fait éclipsé le phénomène mafieux. Du coup, pendant que le monde a les yeux tournés vers Al-Qaïda, le crime organisé, lui, prolifère. C'est le cas sur la route des Balkans, par exemple, où le trafic d'héroïne a triplé en moins de 5 ans. Les mafias n'appartiennent pas au passé ou à un vieux film, bien au contraire. Opportunistes, elles s'adaptent aux faiblesses du monde. Exemple avec la Camorra, la mafia napolitaine, dans l'air du temps. Écoutez Xavier Hofer, écrivain et criminologue.
L'inventivité, le souci du renouvellement des techniques criminelles, et puis surtout le côté flamboyant, macho, etc. des napolitains, est quand même incroyable. C'est quelque chose d'extrêmement vivant, d'extrêmement pittoresque, hein, voyez, alors que les mafieux siciliens sont généralement de vieux messieurs parfaitement muets, insipides. On les reconnaît à peine dans la rue des autres de leur même génération. Les napolitains, c'est autre chose, quoi. C'est quelque chose de beaucoup plus vivant. Ils flinguent à tout va, et en plus de ça, comme maintenant nous sommes dans l'Europe et qu'il y a une énorme activité de la Camorra, de truander, de pirater, de voler des subventions de l'Union européenne, ça m'a semblé être quelque chose d'intéressant au niveau européen, de dire, regardez, voilà, ces gens-là, ils sont dans un bout de l'Europe, et cependant, leur influence se fait sentir dans tout le continent.
Voilà, elle est peut-être un peu plus dans l'air du temps, entre guillemets. Comment elle se manifeste? Quelles sont ses caractéristiques à cette Camorra?
Elle regroupe des bandes criminelles de taille assez réduite, c'est-à-dire de quelques dizaines d'individus maximum, opérant sur des territoires qui sont plus réduits dans la ville de Naples et dans sa périphérie que dans le reste de la Campanie, où naturellement, comme ça, à la campagne, on n'a plus d'espace. Et elle a d'abord une énorme activité de contrôle d'un territoire donné, c'est-à-dire d'activité de racket et de tentative de s'en prendre aux populations locales, les commerçants, les industriels et tout. Après quoi, elle a une énorme activité de vente de stupéfiants en demi-gros et au détail. Et en fin de compte, il y a de nouvelles techniques criminelles, comme je vous dis, l'escroquerie aux subventions de l'Union européenne et autres. Et donc, comme toutes les sociétés criminelles d'ailleurs, la Camorra est une entité pluridisciplinaire, généraliste. Elle n'a pas une spécialité. Elle travaille uniquement selon quelque chose qui est de l'ordre de rapport qualité-prix ou rapport coût-bénéfice. Quand quelque chose est lucratif et rapporte de l'argent de façon criminelle, et la Camorra se précipite dessus. Et d'ordinaire plutôt que les autres. C'est pour ça que les autres sociétés criminelles la regardent, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont fort inventifs.
C'est-à-dire, vous avez des exemples?
Dans le domaine criminel, à un moment donné, ils ont réussi à fourguer à l'Union européenne, par exemple, 14 000 tonnes de faux beurre qui étaient faits avec des produits chimiques absolument dégueulasses. Et donc, ils arrivaient quand même à les écouler et à vendre et à faire des escroqueries aux subventions européennes. Voilà, 14 000 tonnes de faux beurre. Et c'était un système extrêmement complexe. Ça mettait en ligne des tas d'entreprises en Campanie. Ça mettait en ligne tout un réseau d'infiltration et de corruption dans les instances de l'Union européenne jusqu'à Bruxelles. Et donc c'était, en termes d'escroquerie et d'inventivité criminelle, tout à fait remarquable.
Alors vous dites aussi qu'on la retrouve dans les banlieues des grandes capitales aujourd'hui.
Si vous voulez, la mafia sicilienne, c'est trop parfait, dans le sens, une fois de plus, criminel. C'est pratiquement impossible à imiter. C'est-à-dire que si vous essayez aujourd'hui de faire quelque chose qui soit l'équivalent de la mafia sicilienne, vous échouerez comme n'importe qui peut pas faire un grand Bordeaux ou un grand Bourgogne, si vous voulez. En revanche, la Camorra, c'est quelque chose dynamique, quelque chose où des entités ou des structures dans lesquelles les individus s'enrichissent vite et puis sans coup férir. Et donc, 10 ans après, vous voyez des gens qui étaient des petits apprentis âgés de 13 ou 14 ans et qui vendaient des oranges au coin des rues et qui roulent dans des Rolls et qui sont devenus milliardaires. Alors donc, c'est quelque chose qui est stimulant, si vous voulez. Il y a un exemple à suivre. Là, on peut, c'est pas impossible. Si eux, ils sont arrivés, moi, j'y arriverai aussi. Vous voyez, il y a ce côté-là qui fait que dans le tiers-monde, et notamment, par exemple, au Brésil, vous avez des sociétés criminelles qui, manifestement, sont calquées maintenant sur le modèle camorriste. C'est un modèle qui n'est pas trop élevé. Vous voyez, si vous vous lancez dans la fabrication de modèles de voitures, la Rolls-Royce, tout de suite, vous n'y arriverez pas. Il vaut mieux faire des Jeeps, quoi. C'est plus rustique, c'est plus facile, mais c'est sans doute moins technologiquement complexe à réaliser. Et pareil pour la Camorra, c'est un modèle criminel pour des sociétés elles-mêmes criminelles de nombreux pays du tiers-monde et notamment en Amérique latine.
Elle est aux antipodes de la Cosa Nostra sicilienne qui finalement, elle, est plus élitiste.
Voilà, aux antipodes de deux manières de concevoir l'existence mafieuse. Les camorristes, c'est courte mais bonne. Les types montent dans la hiérarchie très vite, arrivent très vite au sommet, se font tuer très vite ou alors se font envoyer en prison pour 70 ans très vite. Et donc, c'est courte mais bonne, vous voyez. Hein, voilà, c'est des existences comme ça, un peu météoriques. Et en même temps, pendant les années que ça dure, eh ben, on a les plus jolies femmes à ses genoux, on a les plus belles voitures et tout. Donc, il y a un côté un peu lumpenprolétariat napolitain. Et on a vu que certains camorristes arrêtés par la police, les femmes du quartier crachaient sur les policiers quoi, en disant « vous les arrêtez pas, ils nous aiment, ils nous aident, ils sont beaux, etc., ce sont nos héros ». Et il y a une dimension quand même très populaire. Tandis que la mafia sicilienne, ce sont des individus d'abord beaucoup plus âgés, ternes, gris, tout à fait capable d'être très dangereux, comme on l'a vu historiquement et singulièrement au cours des 15 dernières années, mais ils font dans l'anonymat.
Cette mafia sicilienne, disait-on un temps, avait des vertus, entre guillemets, de protection de la population. Est-ce que c'est la même chose pour cette mafia napolitaine ?
Oui, c'est-à-dire que les crimes qu'ils commettent, il est difficile de les rattacher directement à des individus de la mafia sicilienne ou de la Camorra. La mafia sicilienne ne tue pas des gens dans la population, sauf cas extraordinaire de type qui a balancé, dénoncé, etc. Même chose pour la Camorra. En revanche, ils peuvent aider. Ils peuvent aider à trouver un travail. Ils peuvent aider donc le capot du coin, le chef du coin. Il est capable des fois de rendre service, voyez. Donc la population voit ça, mais elle ne voit pas les ravages énormes que fait le trafic de déchets toxiques, que font les trafics de stupéfiants. La population ne rattache pas directement ça à ces sociétés criminelles, mais indirectement, elles sont naturellement très nocives. Il est difficile de faire un lien direct pour des gens qui ne sont pas informés, qui vivent en plus dans des quartiers un peu marginalisés. Il est très difficile de faire le lien direct entre, d'un côté, l'activité criminelle et deuxièmement le gentil monsieur qui vous aide à trouver un travail pour votre fils ou qui va expliquer à votre propriétaire que vous ne pouvez pas payer le loyer pour l'instant et que c'est bien comme ça et que vous le paierez plus tard quoi. Donc il y a un côté bureau des pleurs dans la Camorra comme dans la mafia sicilienne, on passe par eux pour essayer de faire corriger un coup du destin, un mauvais sort ou quelque chose comme ça. Et effectivement, les crimes qu'ils commettent, ils sont plus éloignés de la population, ils les voient moins.
Cette mafia a gagné en influence ces dernières années, ces 15 dernières années.
En moins, depuis le 11 septembre 2001, on s'est intéressé à autre chose. Et donc, la caractéristique principale de toute société criminelle, qu'elle soit simplement relevant du crime organisé ou qu'elle soit mafieuse, c'est qu'elle est terriblement opportuniste. Et donc, à la minute où ils voient une opportunité, ils se précipitent. Et là, ils se sont engouffrés dans la brèche. Tant qu'on réprimera pas ça de manière plus sérieuse, tant que surtout l'échelon européen ne s'y mettra pas, parce que il est extrêmement difficile d'amener l'Union européenne à s'intéresser à ces phénomènes de crime organisé. On leur répète sans arrêt, je fais des articles, je fais des notes, je leur envoie des lettres pour dire pourquoi vous passez ça, tenez ça pour quantité négligeable. C'est pas quantité négligeable. Le trafic de migrants clandestins, c'est typiquement une activité mafieuse, parce que vous avez une communauté d'origine, vous avez une diaspora, et vous faites de circuler des individus clandestins, les trafics d'armes, les trafics de drogue et autres, ça fait des ravages énormes. Savez-vous que les trafics d'armes illégales, les armes illégales par le monde tuent à peu près 500 000 personnes par an ? C'est-à-dire les armes des milices dans des pays du tiers-monde, les armes qui servent à accomplir des attentats, qui sont naturellement pas des armes achetées chez l'armurier, les armes qui servent à commettre des hold-up, etc. Tout ça, par an, ça tue 500 000 personnes chaque année. Souvenons-nous que une seule fois dans l'histoire du monde, la bombe d'Hiroshima a tué 125 000 personnes, et là c'est 500 000, et c'est pas une fois, c'est tous les ans. 500 000 morts par an, ça fait 57 morts par heure de l'année. Vous voyez de la taille des ravages. Et naturellement, les sociétés criminelles comme les mafias étant les seules à pouvoir garantir des transactions illicites, c'est-à-dire garantir au chef de guerre au Libéria ou ailleurs qui va bien recevoir ses caisses de Kalachnikov et garantir au vendeur que les diamants qu'on lui donne ne sont pas des morceaux de verre, eh bien, tout le trafic d'armes illicites, il est toujours plus ou moins sous le contrôle du crime organisé. Donc vous voyez les ravages que ça produit à la surface de la planète. Et malgré tout, et face à ça, des instances internationales comme l'Union européenne, qui devrait coordonner, fédérer tout ça, est tétanisée par cette affaire de terrorisme, surtout depuis les attentats de Madrid et de Londres, et donc ne fait pas grand-chose, c'est regrettable.
Vous avez évoqué le trafic d'armes, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, même qu'est-ce qui est le plus juteux aujourd'hui pour ces mafias ?
Rien ne permet d'accumuler plus d'argent plus vite que le trafic de stupéfiants. Si vous voulez accumuler une fortune énorme rapidement, en quelques années, le trafic de stupéfiants. Songez que sur la route des Balkans dont je vous parlais, un mois de profit correspondant à la traversée dans la route des Balkans, vendue en gros ou en demi-gros, hein, parce qu'à ce niveau-là, du trafic, on ne fait pas dans les quarts de gramme au détail dans les portes cochères. Et donc vendu au prix de gros, le profit, je ne parle pas du chiffre d'affaires, mais du profit d'un mois, 30 jours, de trafic d'héroïne dans les Balkans, c'est sans doute plus de 120 millions d'euros par mois. C'est monstrueux, voilà. Et pendant ce temps-là, l'Union européenne discute de microcrédits accordés aux paysans albanais de 2000 dollars. Ils sont pas au bout de leur peine, hein, parce que la région est inondée d'argent criminel. Mais une fois que vous avez accumulé cet argent, vous allez en faire quelque chose. Le trafic de drogue, c'est dangereux dans tous les sens du terme. Vous pouvez vous faire tuer par des concurrents, vous pouvez filer en prison. Et donc, il y a quelque chose qui rapporte plus en quantité d'argent que le trafic de stupéfiants, mais ça prend plus de temps, c'est les piratages de marchés publics. Vous prenez une autoroute dans le sud de l'Italie, vous faites gagner, parce que vous avez impressionné ou soudoyé des gens, le marché de faire recouvrir d'une couche de goudron l'autoroute entre la ville de X et la ville de Y à une société qui est une société, comme on le dit poétiquement, dans le sud de l'Italie, en odeur de mafia. Et donc, au lieu de mettre 5 cm de bitume, elle va en mettre 3, par exemple. Et puis, le monsieur du bureau qui viendra vérifier si les travaux sont bien conformes aura lui aussi été soudoyé ou impressionné ou menacé. Et donc, la différence et les sommes sont énormes dans ces cas-là. 2 cm de béton, de bitume de différence sur 500 km de long, vous voyez à peu près ce que ça représente. Ce sont des dizaines et des dizaines de millions d'euros à chaque fois. Donc, les piratages de marchés publics comme ceux-là rapportent plus d'argent, mais c'est pas rapide. C'est une fois que vous avez fait fortune, vous pouvez vous permettre de faire un coup comme ça toutes les 2-3 ans, et là vous allez rester riche.
En ayant un peu le bras long, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez évoqué l'Union européenne à plusieurs reprises, est-ce qu'on peut imaginer que des cadres de l'Union européenne, c'est quand même une instance qui est énorme, soient corrompus régulièrement par des groupes mafieux ?
Ah oui, ça c'est plus qu'une hypothèse. Alors, il y a maintenant un office de la lutte antifraude au sein de l'Union européenne, l'OLAF, hein, qui suivent de ça. Il y a des magistrats très compétents là-dedans, donc ils arrivent à remonter, à faire des enquêtes et à faire condamner des gens, mais il y a déjà eu des cas de juges, et oui, c'est effectivement plus qu'une hypothèse, c'est une certitude.
C'était l'analyse de Xavier Hofer, professeur à l'Institut de criminologie de Paris. Il est notamment l'auteur de La Camorra, une mafia urbaine, aux éditions de La Table Ronde.
رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي.
La Palestine est à feu et à sang, rien de nouveau. Les médias quotidiennement énumèrent les morts et les affrontements dans des villes dont plus personne n'ignore le nom. Gaza, Jénine, Naplouse, Ramallah, Hébron ou encore Bethléem. Mais derrière ces noms et le prisme médiatique, quelles sont leurs réalités ? Quel est le quotidien de leurs habitants qui, chaque jour, doivent composer avec l'occupant israélien ? Rencontre avec Jean-Michel Petot, journaliste de la rédaction. Il revient d'un voyage de 2 mois en territoire palestinien, terre qu'il a traversée du nord au sud, caméra sur l'épaule, à la découverte d'un peuple tant médiatisé et pourtant si méconnu. Témoignage.
Écoutez, ça va peut-être vous faire sourire, mais est-ce que vous vous rappelez ce dessin animé des années 80 qui se passait au Pérou? Chez les Incas, il y avait Esteban Zitao et c'était...
Les Cités d'Or.
Les Cités d'Or, mais voilà. En fait, on est un peu parti dans le même état d'esprit, c'est-à-dire, puisqu'il y avait un message dans ce dessin animé, ce n'est pas forcément la destination qui compte, mais le chemin. Et on a parcouru effectivement la Cisjordanie du nord au sud. On n'a pas rencontré ni Esteban, ni Tao, ni les Cités d'Or, mais pas mal de rencontres humaines, des Palestiniens, des Palestiniennes. Et puis, on s'est surtout intéressé à ce qui avait changé dans leur quotidien ces 5 dernières années avec la seconde intifada.
Alors, comment vous vous êtes déplacé?
Le voyage commence, on est sur la route pour Jenin, dans un bus, avec des Palestiniennes, des Palestiniens. Et dans ce bus pour Jenin, ce qui nous a frappé en premier, et ce qu'on a retrouvé tout le long de notre voyage, c'est le silence dans tous ces transports, que ce soit des courtes distances ou des voyages qui durent 6 heures pour ne faire que 40 km. La journée se passe comme ça, agrémentée de checkpoints, toutes les 10, 15 km des checkpoints volants, où les femmes restent dans le bus, les hommes descendent, c'est un peu toujours le même procédé. On contrôle, ceux qui sont munis du bon papier peuvent passer, ceux qui ont une autorisation mais qui n'est plus valable doivent faire demi-tour, qu'importe la raison, problème de santé, course, visite chez des amis. Donc il y a une espèce de fatalité comme ça. Et en même temps, dans tous les témoignages qu'on a pu recueillir, c'était « on ne s'habitue pas ». On ne s'habitue pas, même après 5 ans durs de deuxième intifada et de checkpoint beaucoup plus intensifiés, et ces derniers temps, hein, depuis les élections, après les élections palestiniennes. Et vous arrivez dans votre destination, notre première ville, donc Jenin, fatigué, éreinté.
Donc Jenin, la première étape de votre voyage.
Jenin, la première étape. Et dans chaque ville, si vous voulez, on voulait se centrer sur un peu une ou deux histoires qui témoignaient de ces 5 dernières années d'intifada, comment la population l'avait vécu. On a rencontré une famille, 4 jeunes enfants, dont la plus âgée, Sandy, a 13 ans. Et depuis maintenant 3 ans, ils vivent sans leurs parents, puisqu'ils sont tous les deux emprisonnés. Alors là aussi, hein, quand vous arrivez en tant que journaliste, il y a une part d'empathie et de sympathie avec les personnes que vous rencontrez. Reste que bon, les parents ont été condamnés par une cour de justice pour être liés à une organisation terroriste ou à l'organisation d'actes terroristes.
Mais ça reste une
réalité douloureuse des enfants que vous rencontrez. Et ce qui nous a frappé aussi, ce que vous retrouvez à Balata dans les camps de réfugiés ou chez d'autres jeunes enfants à Hébron, c'est une lucidité à 6 ans, 7 ans, 8 ans, et des visages marqués d'enfants qui pourraient très bien avoir une quinzaine d'années alors qu'ils ont à peine 10 ans, et des réalités complètement différentes de ce que vous pouvez vivre ou ce que les enfants peuvent vivre en France au quotidien.
Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir rencontré une autre réalité? Parce qu'on entend souvent parler de Jenin, Hébron, de Cisjordanie, de noms comme ça qui nous sont familiers, mais finalement on ne connaît pas ce qui se passe à l'intérieur de ces villes et ces territoires.
Effectivement, il y a une vie au quotidien, des sentiments qu'on partage très vite. À Naplouse, donc la deuxième ville de notre voyage, c'est une ville très joyeuse, très accueillante. C'est une des villes qui a le plus souffert de la seconde intifada, avec des couvre-feux, avec des incursions militaires, encore récemment dans le camp de réfugiés à côté de Balata, qui est le plus grand camp de réfugiés de Cisjordanie. Les gens, tous les matins, vont travailler. Après, il y a des petits codes qu'on arrive à percevoir comme ça. C'est-à-dire que la réalité est effectivement différente à Naplouse. À 22h, il n'y a plus personne dans les rues, puisque ce sont les chars qui rentrent pour aller jusqu'au camp de réfugiés. Donc il y a une espèce de normes un peu tacites. On ne montre pas la peur au quotidien, durant toute la journée, et on joue en marge. Mais la vie continue.
Vous évoquiez ce camp à côté de Naplouse, ce plus grand camp de la région. À quoi ressemble-t-il? À quoi ressemble un camp palestinien?
Eh bien, ce n'est ni un camp de scout, ni un camp comme on a pu peut-être le voir en ex-Yougoslavie, lorsqu'il y a des déplacements de population, pour le coup temporaire, et des camps installés par des grandes institutions internationales. Là, les camps en Cisjordanie sont des camps, normalement, temporaires, mais quand on arrive, on se dit, tout est fait pour durer. Vous arrivez à Balata, la mosquée, une grande avenue d'un kilomètre, le camp fait 1 km², et dedans, des petits pavés de maisons, 2 par 2, 2 étages, béton, très simple, et des toutes petites rues à l'intérieur. Vous pouvez vous dire, voilà, c'est un des quartiers de la ville qui se poursuit, avec des marchés, avec des commerces qui fonctionnent. mais ça reste un camp de réfugiés. Et lorsque vous parlez à un réfugié, il ne vous dira pas « je suis de Balata à côté de Naplouse », il vous dira « je suis de Jaffa », actuellement donc à côté de Tel Aviv en Israël. Ces camps de réfugiés, notamment celui de Balata par exemple, sont sur des parcelles louées par l'ONU pour une durée de 99 ans à l'époque. Ce qui montre aussi là que même au niveau international, on se dit qu'on a le temps de régler l'affaire et qu'on ne compte pas la régler peut-être de sitôt.
Alors ensuite, vous êtes arrivé à Ramallah, un nom mythique.
Ramallah, ville ouverte.
Ville ouverte.
Si vous me permettez, puisqu'on est à Rome. Mais Ramallah, oui, effectivement, là, du coup, quand vous sortez du zoo de Kalkilia, vous avez une bouffée d'air pur à Ramallah. Et c'est une ville qui brasse beaucoup de classes différentes, beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, d'artistes aussi. Il y a pas mal de peintres qui vivent à Ramallah, de poètes, mais aussi des musiciens, pas mal de jeunes qui viennent faire leurs études, dans la perspective aussi peut-être de décoller. Et il y a beaucoup de jeunes palestiniens qui sont très partagés entre vouloir rester en Palestine parce que c'est leur terre, c'est leur pays, et puis d'autres qui se disent non, moi ma place n'est pas là, et qui veulent venir voilà, soit en France, soit en Angleterre, soit aux États-Unis. Mais donc Ramallah, c'est un peu aussi un tremplin, on le sent comme ça. Et puis une vie nocturne qu'on ne retrouve pas dans d'autres,
voilà,
dans d'autres villes de Cisjordanie.
Comment vit cette jeunesse de Palestine? Elle vit comme la jeunesse du monde entier?
À Ramallah, elle le vit à cela près, comme la jeunesse du monde entier, que généralement, elle a quand même dû quitter une des villes de la Cisjordanie. Et donc elle a connu aussi des interventions précédemment. Ramallah n'a quand même pas été épargnée pendant cette seconde intifada non plus. Et puis si vous voulez, vous êtes dans une espèce de bulle comme ça, mais dès que vous voulez sortir de Ramallah, ne serait-ce que pour aller à Jérusalem, vous passez Qalandia. Et là, Qalandia, c'est un des checkpoints les plus impressionnants qu'on a pu rencontrer pendant notre voyage. Quand on contourne Jérusalem, puisqu'on a décidé dans ce voyage de prendre un peu le parcours que faisait la majorité des Palestiniens, ils sont très peu à pouvoir aller à Jérusalem, soit ils sont arabes israéliens, soit ils ont des autorisations spéciales pour pouvoir passer. Mais donc nous avons contourné, nous sommes arrivés à Bethléem. Et Bethléem, alors contrairement à Qalandia, le checkpoint est là encore impressionnant, mais la première fois, pour vous dire, j'ai pensé que j'étais arrivé à un terminal d'aéroport. C'est-à-dire que vous arrivez là, tout est fermé, tout est très propre, et puis bon, vous passez de nouveau ce checkpoint de Bethléem avec des belles salles d'attente, des panneaux « Notre espoir tous ensemble » ou encore des petites affiches priées de laisser ces lieux propres. Et puis vous arrivez donc Bethléem, un mur, pareil, de 8 mètres de haut. Vous arrivez à Bethléem, donc lieu de la nativité du Christ, vous arrivez à la basilique de la nativité. On a rencontré le père Amjad, qui est donc à la basilique de la Nativité, qui témoignait de ces 5 années où il disait qu'il y avait un poids, que ce soit économique pour les commerçants, pour tout ce qui est tourisme, puisque Bethléem était une grande ville de tourisme, que ce soit aussi spirituel, puisque se recueillir dans des conditions de stress permanent, de savoir s'il va y avoir une incursion, etc. Puis autour, vous voyez aussi les colonies qui grappillent petit à petit des terrains qui avant reliaient entre Jérusalem et Bethléem, qui faisaient partie de Bethléem. Et puis la commune de Jérusalem s'étend de plus en plus avec donc des colonies qui vont à l'ouest, qui vont à l'est de Jérusalem et au sud de Jérusalem, avec cette idée d'englober un peu une Jérusalem une et indivisible pour l'État hébreu.
Un schéma qu'on retrouve un peu à Hébron. Dernière étape de votre voyage.
Dernière étape du voyage, un schéma qu'on retrouve tout particulièrement à Hébron, puisque là, les colonies ne sont pas à l'extérieur de la ville, mais au cœur même. Vous avez la vieille ville d'Hébron, un souk. Jusque-là, c'est la constitution normale d'une ville en Cisjordanie. Et dans ce souk, vous avez des zones où l'État israélien gère entièrement la zone. Voilà, c'est H1, H2. H1 sous autorité palestinienne, normalement. H2 entièrement sous autorité israélienne. Tous les 200 mètres dans la vieille ville, vous avez un checkpoint, une dizaine de soldats, et puis il faut présenter patte blanche, dire qu'on va passer. Peut-être à Hébron, l'image qui nous a le plus marqué, c'était une école qui se trouve dans la vieille ville. Tous les enfants, pour aller dans cette école, tous les matins, viennent avec leur cartable, des petites têtes blondes, têtes brunes, qui passent pour aller faire leur demi-journée de classe. Et ils doivent rentrer dans une cabine, se dévêtir, passer dans un détecteur de métal, et présenté aux soldats, s'ils sont cartables, à côté de son goûter, il n'a pas un M16 qu'il aurait caché à 6 ans dans son sac. Ensuite, il peut aller à l'école et faire une bonne, sereinement, une bonne demi-journée de travail.
Voilà, c'était le témoignage de Jean-Michel Petaut, journaliste de la rédaction de Radio Vatican. Il revient tout juste de Palestine, où il a réalisé un reportage télévisé pendant 2 mois. Voilà, c'est la fin de ce magazine. N'oubliez pas que vous pouvez écouter ce programme sur notre site internet, sur le www.radiovaticana.org. La semaine prochaine, vous retrouverez Bernard de Cotigny pour un nouveau Mondoscopie. À très bientôt.